7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Après les gilets jaunes, les stylos rouges, les blouses blanches sont désormais omniprésentes sur les réseaux sociaux. Groupe de soutien au professeur Raoult débat sur les mesures sanitaires, expression de solidarité envers les soignants. Bonjour Olivier Hirschfeld, vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Nantes. En sciences de l'information, qu'avez-vous observé sur les réseaux sociaux? Comment se sont-ils emparés notamment de la question des traitements du Covid-19?
Bonjour, oui, alors on a vu sur les réseaux sociaux un phénomène qui a été un petit peu à l'unisson initialement de la couverture médiatique en temps de crise, c'est-à-dire qui s'est cristallisé sur une figure médiatique émergente qui a été celle du professeur Didier Raoult, et puis sur un traitement qui a été présenté là aussi comme très prometteur, voire un petit peu comme miracle. Et puis à partir de là, s'est enclenché donc une logique virale qui, vous l'avez dit, est un petit peu la même à chaque temps de crise, que ce soit pour les gilets jaunes ou pour les stylos rouges, c'est-à-dire que une logique virale qui se structure d'abord sur des sentiments qui sont des sentiments de colère ou d'injustice, ou des deux cumulés, dont on sait, parce qu'on a étudié ça d'assez près, que ce sont les sentiments qui, si j'ose dire, se propagent le mieux et le plus facilement, ont le taux de viralité le plus efficace et le plus spontané dans ces architectures que sont les réseaux sociaux. Donc à partir de là, effectivement, on a vu se constituer notamment des groupes Facebook qui sont des espèces de nids comme ça, avec là encore une dimension virale très forte, puisque dès que vous avez approcher, liker, partager, ne serait-ce qu'un post ou qu'une publication de ces groupes-là, et bien votre mur Facebook tout entier a tendance à prendre une coloration nettement marquée pro Raoult, donc en l'occurrence pour ces groupes-là.
Alors colère et injustice, Olivier Hirschfeld, concernant donc Didier Raoult, qu'est-ce que cela signifiait, qu'est-ce que cela impliquait?
Alors ça implique effectivement que, il y a eu, après la découverte de l'homme et de ce monsieur qui, au-delà de ses qualités de chercheur reconnu, même si ensuite on a vu apparaître un certain nombre de débats, est en termes médiatiques un espèce d'accrocheur de viralité, c'est-à-dire qu'il n'a pas la figure classique du scientifique un peu terne tel qu'on se le représente dans l'imaginaire collectif, et il est devenu très vite le sujet d'une polémique, puisque effectivement du jour au lendemain ou quasiment, celui qu'on présentait comme l'épidémiologiste ou le médecin ou le scientifique, en tout cas modèle et son traitement miracle, a immédiatement basculé dans le soupçon, est-ce qu'il est vraiment rigoureux scientifiquement, est-ce que la chloroquine n'est pas plus dangereuse qu'elle n'est bénéfique. Et donc à partir de là, effectivement, quand ce côté biface, double, s'est révélé, là aussi les réseaux sociaux, comme nous sommes en contexte de pénurie, comme il y avait un sentiment d'angoisse qui était effectivement très très prégnant, ils ont foncé, si j'ose dire, de manière assez univoque vers, alors pas la thèse complotiste, mais en tout cas la thèse du soutien à l'homme et au traitement qui était injustement condamné par les médias, l'establishment, voire le monde politique. Et donc chaque fois que un article sortait sur remettant en doute l'efficacité de la chloroquine ou la probité du docteur Raoult, on observait un phénomène de vague un petit peu inverse sur les réseaux sociaux, avec de plus en plus de messages pro-Raoult, pro-chloroquine. Et comme on sait que ces deux environnements-là, c'est-à-dire les réseaux sociaux et puis notre vie en dehors de ces espaces, il y a énormément de percolation, d'informations qui va de l'un à l'autre, et bien effectivement ça a donné des impacts, si j'ose dire, dans la vie réelle, puisqu'on a vu notamment relativement à Marseille ces files de gens qui patientaient au mépris de toutes les règles sanitaires pour espérer avoir un traitement à la chloroquine.
Alors quels étaient les arguments mobilisés en faveur donc du traitement proposé par le professeur Raoult?
Alors dans ces arguments, il y en avait, ils étaient bien sûr pour la plupart d'entre eux biaisés, c'est-à-dire qu'on a une partie des arguments qui reprenaient avec la dose de flou inhérente certains arguments qu'on avait vus dans des grands médias, dans des journaux mainstream, avec effectivement les effets supposément bénéfiques alors à certains stades de la maladie plutôt qu'à d'autres. Et puis encore une fois le sentiment de colère et le sentiment d'injustice, là aussi c'est cristallisé, c'est figé sur la situation de manque ou l'impression qu'on allait refuser ce qui pouvait être un traitement quand même utile à des tas de gens. Et après les arguments ont été ce qui est un des problèmes structurels de Facebook et de ces grands écosystèmes d'information, c'est-à-dire que même si au départ le sentiment de colère et d'injustice est légitime, même si ou peut apparaître légitime, même si au départ certains des arguments sont effectivement ni bons ni mauvais, mais sont des arguments de raisonnement, il vient un temps où l'architecture technique de Facebook fait que tout ça tourne en boucle, l'air devient un petit peu vicié, et ça finit par dénaturer la nature même de la contestation, qui bascule au bout de quelques jours, au bout de quelques semaines, dans une contestation systématique de toute forme, de pouvoir établi, de pouvoir étatique, de représentation politique, et ainsi de suite. Donc très vite.
Mais alors là, le mécanisme, Olivier Hirschfeld, est assez intéressant, parce qu'on passe d'un traitement, contre une maladie, la Covid-19 en l'occurrence, à un discours qui est beaucoup plus étoffé et beaucoup plus vaste, si je vous suis bien.
C'est ça, c'est-à-dire que on commence par le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire on se focalise d'abord, alors soit sur le traitement, soit sur l'individu, encore une fois, sur le phénomène d'incarnation est quand même un phénomène qui est très fort sur les réseaux sociaux, même si on présente ça souvent comme des choses un petit peu désincarnées. Donc là, en l'occurrence, c'est davantage la figure la chloroquine et la figure de Didier Raoult ont été immédiatement associées, et c'est surtout l'image aussi de Didier Raoult qui a fait qu'il y a eu cette identification très forte. Comme on avait vu à l'époque du mouvement des Gilets jaunes, par exemple, des groupes se structuraient autour de deux ou trois figures très fortes qui étaient les leaders sans l'être, ou sans vouloir l'être en tout cas, de ce mouvement-là. Donc on a vraiment besoin de ce phénomène d'incarnation, et à partir de là, effectivement, c'est une espèce de d'antichambre ultra concentrée et ultra concentrique aussi de tout ce qui peut se dire dans les médias, et donc autour de Didier Raoult sur les réseaux sociaux comme dans les médias classiques, mais avec plus de force, parfois moins de nuances et surtout plus de volume. On a vu arriver toutes les critiques ou toutes les louanges sur l'homme atypique, le scientifique étrange mais efficace, l'individu sulfureux, le patron de cette IHU à Marseille, etc., etc.
Et alors, est-ce qu'on est capable de savoir, par rapport donc à ces différents internautes qui sont intervenus sur les réseaux sociaux en faveur de Didier Raoult, est-ce qu'on est capable de savoir qui ils sont, d'où ils viennent, bref, qu'est-ce qui les agite en dehors de ce traitement contre la Covid-19?
Oui, alors on a les moyens d'étudier effectivement quelle est la sociologie de ces attroupements ou de ces regroupements virtuels. Alors après, on a des moyens qui sont limités parce que il faut pour cela alors soit être dans les groupes eux-mêmes et faire ce qu'on commençait à faire un certain nombre d'articles de scientifiques, c'est-à-dire extraire on extrait un petit peu des carottes dans d'autres scientifiques. Extraire des profils, extraire des échanges linguistiques pour voir de quoi les gens parlent vraiment et d'où ils parlent. Mais le problème, c'est que très vite, on se heurte à ce qui est normal, c'est-à-dire que ces données-là ne sont pas entièrement publiques et transparentes, sauf pour la plateforme elle-même, c'est-à-dire sauf pour Facebook, qui, lui, peut effectivement savoir avec une précision et une transparence totale qui sont les gens qui participent à ces groupes-là, ce qui pose un problème qui est le même que cela avait posé à l'époque des Gilets jaunes, c'est-à-dire que en exprimant leur colère légitime ou illégitime, peu importe, sur Facebook, en le faisant de manière récurrente, de manière très renseignée, on nourrit en même temps cette formidable base de données d'opinion qui est Facebook, et à partir de ces données toujours plus enrichies, toujours plus qualifiées à l'occasion de chaque crise politique, sociale ou sanitaire, Facebook a derrière deux possibilités, celle d'affiner toujours davantage son modèle économique, pourquoi pas, mais une autre possibilité un petit peu plus inquiétante qui est celle de doper aussi son, son modèle de données politiques et de se servir éventuellement de ces données-là dans des contextes d'influence. On l'avait vu notamment avec le scandale Cambridge Analytica il y a quelques temps.
Merci Olivier Hirschfeld. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Nantes en sciences de l'information. 7h25 sur France Culture.
7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.